Michel, bonjour, bienvenue chez vous.
Bonjour Joël.
130e chronique astro, juste avant d'attaquer la chronique, je ne me rappelle plus en nombre d'années.
Ça fait quelques... en septembre 2014.
Voilà, bon, mais écoutez, le temps de réfléchir. Voilà, en tout cas, ravi de vous retrouver, Michel, et de vous saluer chaque fois pour tout ce travail voilà, impliqué, passionné, passionnant de réalisation de votre chronique astro. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous avez commencé, bien sûr, par les actualités. Et la première question, bien sûr, abordée, c'est doit-on craindre des débris spatiaux, Michel ?
Eh bien oui, hein. Et j'ai été étonné que les médias ne parlent pas plus d'un événement spatial qui s'est déroulé le week-end dernier. Un débris de fusée de 11 tonnes allait s'écraser sur Terre et pouvait tomber presque n'importe où, en causant peut-être de gros dégâts. Tout a commencé le 3 décembre dernier avec le lancement par la société Landscape d'une fusée Zhuge-3 depuis le centre spatial Jiuquan, je suppose, situé dans le désert de Gobi en Mongolie intérieure. Cette société s'est positionnée comme d'autres start-up chinoises sur le marché du lancement commercial de satellites et développe des lanceurs de moyenne puissance jusqu'au lanceur lourd Zhuge-3 qui est assez semblable au Falcon 9 de SpaceX avec une capacité d'emport d'une vingtaine de tonnes en orbite basse et son premier étage réutilisable après être revenu se poser en douceur sur une barge. Le tir du 3 décembre était son premier essai et il a partiellement échoué car le premier étage a explosé lors du rallumage de ses moteurs pour venir se reposer. Il faut dire que SpaceX avait aussi raté les deux premiers essais de récupération du premier étage du Falcon 9 en 2010. Mais Zhuge-3 avait réussi à placer une charge fictive sur une orbite elliptique culminant à 400 km d'altitude, comparable à celle de l'ISS, mais descendant jusqu'à 140 km, ce qui est très bas et la condamne à une chute inéluctable en étant ralentie par le frottement, si on peut dire, sur les couches hautes de l'atmosphère. On ne connaît pas tous les détails sur cet élément, mais sa masse serait d'environ 11 tonnes pour une longueur de 12 à 13 mètres. Autant dire qu'un si gros morceau ne se désintégrera pas lors de sa rentrée atmosphérique et que des débris importants atteindront le sol. Il était donc surveillé par les organismes étudiant les débris spatiaux, et notamment l'EUSST, ce qui veut dire Space Surveillance and Tracking, c'est la surveillance de l'espace et le suivi, de l'Union européenne, qui a annoncé la semaine dernière que la lente descente allait se terminer par la rentrée atmosphérique estimée vendredi 30 janvier en milieu de journée. La question était de savoir où, ce qui est toujours très difficile à déterminer en raison des effets aérodynamiques lors de la traversée de l'atmosphère qui sont imprévisibles, car on ne connaît pas les caractéristiques de son vol en fonction de son profil et de son angle de pénétration. On peut juste dire que la chute se produira plus ou moins le long de la projection au sol de son orbite. Avec une inclinaison d'environ 57 degrés par rapport à l'équateur et une période d'environ une heure, sa trajectoire se décalait régulièrement par rapport au sol, l'amenant à survoler pratiquement tous les continents, mais aussi les océans, qui représentent environ 70% de la surface de la Terre. Et si on compte avec les grands déserts, il était probable que la chute se produise sur une région inhabitée. L'objet a finalement été perdu par les organismes qui suivaient son évolution, et selon les calculs de l'EUSST, il serait tombé vendredi vers 16h05, à plus ou moins une demi-heure, alors qu'il survolait l'océan Pacifique au sud de l'Australie. Selon le Daily Mail, l'US Space Force aurait confirmé de son côté une rentrée à 14h40 à l'est de la Nouvelle-Zélande. Une chute dans l'océan, sans aucun témoin, ni bien sûr vidéo, explique l'incertitude sur le lieu exact où elle s'est produite. Et c'est une bonne nouvelle, car l'impact sur une région habitée, au pire une ville, aurait pu causer d'importants dégâts.
Mais ce n'est pas le seul incident de ces derniers jours concernant les débris spatiaux.
En effet, ce samedi 31 janvier a également connu un autre accident, mais cette fois qui s'est déroulé dans l'espace et concerne un satellite militaire russe nommé Luch ou Olymp K2. Ce satellite d'environ 3 tonnes, lancé en 2014, assurait une double fonction. Un relais de communication, comme tous les satellites de cette série Luch, mais aussi une mission militaire d'écoute électronique. Dans le cadre de cette activité, il avait été remarqué par des manœuvres suspectes l'amenant à s'approcher d'autres satellites étrangers, notamment américains, ce qui avait provoqué une protestation officielle des USA en 2015, ce satellite étant suspecté non seulement d'écouter les échanges des satellites approchés, mais pouvant potentiellement embarquer des dispositifs permettant de les brouiller. De même, en 2018, la ministre française des Armées, Florence Parly, avait dénoncé son comportement inacceptable après qu'il s'est approché du satellite militaire franco-italien Athena Fidus, accusant même la Russie d'actes d'espionnage. Je la cite. Ayant atteint la limite de sa durée de vie, il avait été placé sur une orbite cimetière, comme on les appelle, là où on stocke les satellites périmés pour ne pas encombrer les orbites utiles, comme l'orbite géostationnaire où il opérait, et il a été remplacé par deux successeurs assurant les mêmes missions. La société suisse S2A Systems, qui propose des services de suivi de satellites aussi bien aux sociétés privées qu'aux États, a publié samedi des images montrant la destruction de ce satellite. Même si on ne peut pas totalement exclure une action militaire d'un État voulant démontrer sa capacité à atteindre des satellites en orbite, l'hypothèse généralement retenue est qu'il aurait été victime d'une collision avec un débris spatial. On estime qu'il y a actuellement dans les 36 000 débris de plus de 10 cm sur des trajectoires diverses autour de la Terre et représentant un danger permanent pour toutes les missions spatiales. En effet, dans notre contexte terrestre habituel, on peut croire qu'un débris de 10 cm ne représente pas une menace très grave. Mais c'est oublier les lois de la physique. L'énergie cinétique d'un objet en mouvement est proportionnelle à sa masse, mais surtout au carré de sa vitesse. Et c'est ce facteur qui change tout. Ces débris spatiaux évoluant à des dizaines de milliers de kilomètres heure, ils possèdent une énergie considérable, donc un pouvoir destructeur énorme. En novembre 2021, j'avais assisté à une conférence sur le sujet dans le cadre des RCE, les Rencontres du Ciel et de l'Espace, qui auront lieu aussi cette année à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris du 13 au 15 novembre. D'ailleurs, si les auditeurs veulent en savoir plus, la chronique de novembre 2021 parlait des débris spatiaux. Le spécialiste donnait ces comparaisons pour fixer les ordres de grandeur. Un petit débris de 1 mm lancé à ce genre de vitesse possède la même énergie cinétique qu'une boule de bowling lancée à 100 km/h et pourra donc occasionner les mêmes dégâts. Pour 1 cm, c'est une voiture lancée à 130 km/h et pour 10 cm, c'est l'énergie équivalente à 25 kg de TNT. Les espaces en jeu sont heureusement très vastes, rendant ces collisions assez peu probables. Mais quand elles se produisent, elles sont très destructrices et génèrent à leur tour de nombreux débris. C'est assez bien illustré dans le film Gravity de 2013, qui est repassé récemment sur Arte. Cette augmentation exponentielle du nombre de débris au fil des collisions successives inquiète les spécialistes du domaine, qui parlent même du syndrome de Kessler, du nom de l'astrophysicien américain qui avait alerté dès 1978 sur le fait que le volume des débris spatiaux en orbite basse pourrait atteindre un seuil tel que les collisions deviendraient tellement fréquentes qu'elles rendraient impossible l'exploration spatiale, donc bien sûr les missions humaines, pour plusieurs générations. Cette situation préoccupante conduit les agences spatiales, et notamment l'ESA, l'Agence spatiale européenne, plutôt en pointe dans ce domaine, à envisager des techniques de nettoyage de l'environnement spatial en capturant, en faisant chuter dans l'atmosphère ou à l'inverse en éjectant loin de la Terre, les satellites inutiles qui encombrent les orbites et augmentent les risques de collision. Mais avec l'arrivée des méga-constellations de satellites, comme les Starlink de SpaceX, comptant actuellement dans les 8 à 10 000 satellites en orbite basse, et à terme 12 000, voire 42 000 dans une deuxième phase de développement, ce problème devient de plus en plus préoccupant.
Et enfin quelques nouvelles brèves dans l'actualité astronomique et spatiale.
Oui, alors nos auditeurs ont sans doute entendu dans les médias que les 4 astronautes de la mission Crew 11 ont vu leur séjour à bord de l'ISS abrégé par un problème médical, touchant l'un ou l'une, puisqu'il y a une femme, deux, sans plus de précision, secret médical oblige. Prévu dans la deuxième quinzaine de février, le retour a donc été avancé au 15 janvier, où ils sont revenus sur Terre sans encombre et immédiatement hospitalisés une nuit pour un check-up complet. Sauf erreur de ma part, on n'a pas eu plus d'informations depuis. Du coup, pour reconstituer l'équipage habituel de l'ISS, de 7 astronautes, le lancement de la mission de relève Crew 12, prévu initialement après le 15 février, car généralement on attend l'arrivée du nouvel équipage avant de redescendre le précédent, doit être avancé sans doute le 11. Comme on le sait, cette mission Crew 12 comprend la spationaute française Sophie Adnaud, dont ce sera le premier séjour à bord de l'ISS, en principe pour 9 mois, depuis son recrutement par l'ESA en 2022. Dans la nuit du 19 au 20 janvier, on a pu observer des aurores boréales d'une intensité exceptionnelle dans le ciel français, comme en mai et octobre 2024. Malheureusement, la météo n'était pas très favorable en Aquitaine et de plus, l'événement n'avait été prévu que peu de temps avant de se produire. En effet, habituellement, les particules solaires envoyées dans notre direction par les éruptions solaires, ou EMC, éjections de masse coronale, mettent dans les 2 à 3 jours pour nous atteindre et allumer les aurores en percutant notre atmosphère. Mais l'EMC à l'origine de celle-ci s'était produite le matin même et avait propulsé les particules à une vitesse tout à fait inhabituelle, à plus de 1000 km par seconde. Et il n'aura fallu qu'une journée pour qu'elles atteignent la Terre, donc un délai très court pour alerter les observateurs. Cet épisode vient nous rappeler que le Soleil est actuellement dans une phase active de son cycle d'environ 11 ans, ce qui pourrait produire d'autres aurores spectaculaires dans les mois qui viennent. Le télescope spatial européen Plato a commencé ses tests en vue de son lancement prévu dans un an, en janvier 2027, par une fusée Ariane 6. Cette mission de l'ESA, dont l'acronyme signifie Planetary Transits and Oscillations of Stars, c'est-à-dire transit planétaire et oscillation des étoiles, doit rechercher pendant au moins 6 ans des exoplanètes de type terrestre autour d'étoiles proches, ce qui permettrait de mieux caractériser les systèmes planétaires et les comparer à notre système solaire, car la majorité des presque 6200 exoplanètes connues à ce jour sont de grosses planètes gazeuses, comme Jupiter ou Neptune, en raison des limites techniques des systèmes de détection. La sonde Plateau, avec ses 2,5 tonnes et équipée de 26 petites lunettes de 12 cm, a subi en janvier avec succès les tests de vibration destinés à vérifier sa résistance aux contraintes mécaniques subies pendant le lancement. Dans les mois qui viennent, elle devra démontrer son bon fonctionnement dans les conditions du vide et du froid spatial dans le Large Space Simulator, le grand simulateur de l'espace, de l'ESA, une chambre à vide de 10 mètres de diamètre et 15 mètres de hauteur, située à Noordwijk, aux Pays-Bas, au sein du Centre européen de recherche et technologie spatiale, où se trouve aussi la table vibrante Hydra, sur laquelle elle vient d'être secouée. À propos de l'ESA, on a appris le décès à 88 ans, le 29 janvier, de Roger Maurice Bonnet, sans doute peu connu du public, qui a dirigé le programme scientifique de l'Agence européenne de 1983 à 2001. Malgré des moyens bien inférieurs à ceux de la NASA, il a à son actif de grandes réussites des missions d'exploration du système solaire, comme la sonde Giotto, lancée à la rencontre de la comète de Halley en 1986, ou Huygens, parti explorer Titan en 2005, le télescope Hipparchos, qui a cartographié avec précision 2,5 millions d'étoiles entre 1989 et 1997, le télescope XMM Newton observant dans les rayons X depuis l'an 2000, l'observatoire solaire SOHO en 1995 en coopération avec la NASA, ainsi que le fameux télescope spatial Hubble. Et pour finir sur une bonne nouvelle, le budget de la NASA sera finalement en augmentation pour 2026, puisque Donald Trump a signé le 23 janvier la loi de finances de l'agence spatiale, telle que négociée par les parlementaires américains, qui n'ont pas suivi les restrictions drastiques préconisées en début d'année 2025 par le président et son acolyte Elon Musk, qui envisageaient des coupes à hauteur de 25% du budget. Officiellement, le budget 2026 de 24,4 milliards de dollars est en légère baisse par rapport aux 24,9 milliards de dollars de 2025, mais une enveloppe supplémentaire s'y ajoute en provenance de la BBB, la Big Beautiful Bill, comme disait Trump, qui l'a signé en juillet, et qui prévoit 10 milliards supplémentaires répartis jusqu'en 2032. Donc au final, la NASA verra ses moyens augmenter en 2026, ce qui lui permettra de réaliser les programmes prévus, à l'exception notable de la mission Mars Sample Return, de retour sur Terre des échantillons collectés sur Mars par le rover Perseverance, dont la dérive budgétaire importante, de budget estimé en 2012 à 1,5 milliard de dollars, est passé à 9 milliards en 2025, ce qui a conduit le Congrès américain à l'annuler complètement, sans se soucier de l'impact sur l'agence européenne ESA, partenaire de la mission. La NASA, avec son budget, pourra notamment poursuivre son programme lunaire comme prévu.
Vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Odo Radio, c'est notre journal en ce mercredi 4 février 2026. Voilà, toujours avec Michel Favret qui est venu présenter sa chronique Astro 130. Voilà, et là on va aborder, voilà, baissez le prompteur s'il vous plaît.
Le programme lunaire.
La deuxième partie, voilà, mais c'était pas très compliqué, mais voilà, c'est bien quand j'ai sous les yeux. Voilà, donc deuxième partie de votre chronique, Michel, vous allez notamment nous parler du programme lunaire Artemis.
Voilà, avant la mission mission Artemis 2, dont le lancement était prévu cette semaine, peut-être dès dimanche, ou au plus tard en mars ou avril, j'ai pensé utile de remettre en perspective ce programme lunaire habité de la NASA, que nous abordons souvent ici, mais par bribes, notamment au fil des essais du vaisseau Starship de SpaceX. Pour commencer, on peut faire un petit rappel historique du programme Apollo des années 1960-70 qui a permis aux hommes de se poser sur la Lune, ne serait-ce qu'à titre de comparaison, pour montrer à quel point le rythme était différent pendant la guerre froide, où la course à la Lune était un défi majeur opposant les USA et l'URSS, par rapport à notre époque beaucoup plus prudente, où les étapes sont franchies bien plus lentement, même si au fond, les USA et la Chine nous refont le coup de la course pour être les premiers à revenir sur la Lune. Le début de l'ère spatiale, juste après la Deuxième Guerre mondiale, est l'héritière des missiles V2 allemands. Les Américains récupérant l'ingénieur qui les a conçus, Werner von Braun, alors que les Soviétiques mettent la main sur l'usine de Dora en Pologne, où ils sont construits, ce qui permettra à l'ingénieur Sergei Korolev, on dit Korolev ou Korolev, de concevoir les premiers lanceurs russes. Les premiers résultats significatifs commencent à la fin des années 1950, et ce sont les Russes qui franchissent en tête toutes les étapes. Lancement du premier satellite Sputnik en octobre 1957, premier animal dans l'espace avec la chaîne Laïka en novembre, première sonde en orbite lunaire Luna 3 en octobre 1959, premier cosmonaute en orbite Yuri Gagarin en avril 61, première femme Valentina Tereshkova en juin 63 et première sortie dans l'espace d'Alexei Leonov en mars 1965. Les USA franchissent aussi ces étapes, mais lamentablement à la traîne derrière les Soviétiques, ce qui ruine leur prestige technique dans cette période d'affrontement des deux blocs dans tous les domaines. C'est pourquoi le président Kennedy, dans un fameux discours devant le Congrès en mai 1961, annonce une accélération de leurs efforts dans le spatial en déclarant, hein, je le cite en français, « Notre nation doit s'engager à faire atterrir l'homme sur la Lune et à le ramener sur Terre sain et sauf avant la fin de la décennie, c'est-à-dire 1970. » Pour atteindre cet objectif ambitieux, les Américains devront mettre au point les éléments technologiques pour le réussir, notamment l'énorme fusée Saturn V, 110 mètres de haut et 3400 tonnes de poussée au décollage, la capsule Apollo permettant de transporter 3 astronautes, le module lunaire ou LEM pour se poser et redécoller de la surface lunaire, et les combinaisons permettant d'y évoluer en toute sécurité. Et en parallèle, les procédures indispensables à l'exécution de cette mission, notamment le rendez-vous spatial de 2 vaisseaux testés en orbite terrestre lors des missions Gemini. Sans oublier que tout cela se fait à marche forcée, car de son côté, l'URSS développe son propre programme lunaire.
Et ce sont les Américains qui ont gagné la course à la Lune.
Oui, alors on dit le 20 ou le 21, parce que ça dépend si on prend le fuseau horaire américain ou européen. Juillet 1969, avec Apollo 11, qui permettra à Neil Armstrong et Buzz Aldrin de fouler le sol lunaire, réussissant le pari osé de Kennedy, qui ne le saura jamais, puisqu'il a été assassiné 6 ans plus tôt à Dallas, un peu plus de 2 ans après son discours visionnaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir le rythme soutenu auquel ont été franchies les dernières étapes du programme Apollo. La Saturn V a été lancée pour la première fois le 9 novembre 1967, avec la capsule Apollo 4 sans équipage. Puis un an après, le 21 décembre 1968, c'est déjà Apollo 8 qui emportait 3 astronautes pour se mettre en orbite lunaire. Moins de 6 mois plus tard, le 18 mai 1969, c'est Apollo 10 qui effectuait la répétition générale de toutes les opérations de la mission lunaire, au point de presque se poser, puisque le LEM, avec 2 astronautes à bord, n'a stoppé sa descente qu'à 16 km de la surface. Et 2 mois plus tard, c'est la mission historique Apollo 11 et les premiers pas de l'homme sur la Lune. Si on met en parallèle les étapes similaires du programme Artemis actuel, on voit bien à quel point on progresse moins vite. Le premier tir du SLS, le nouveau lanceur lourd de la NASA, a été effectué en novembre 2022, dans le cadre de la mission Artemis 1, qui a propulsé la capsule Orion jusqu'à l'orbite lunaire. Mais plus de 3 ans après, on attend toujours le lancement d'Artemis 2, peut-être début mars, avec un équipage de 4 astronautes qui effectueront une large orbite autour de la Lune, donc une mission similaire à Apollo 8. Et c'est seulement en 2028, officiellement, que des Américains pourraient retourner marcher sur la Lune, presque 60 ans, après Apollo 11. Et encore, les retards accumulés dans la mise au point des éléments techniques, notamment le Starship, fait craindre que cette échéance ne recule encore. Bien entendu, il y a des explications objectives à cette lenteur du programme Artemis. Il n'y a plus la même pression que pendant la guerre froide, bien que la Chine annonce de son côté vouloir poser un taïkonaute sur la Lune avant 2030. Donc les USA ne consacrent plus les budgets aussi énormes à ces missions. En 1966, l'État fédéral consacrait 5,5% de son budget à la NASA, dont la moitié pour le seul programme Apollo. Et bien entendu, on ne peut plus se permettre aujourd'hui le même niveau de risque pour les astronautes. À l'époque, on évaluait à 8 chances sur 10 la réussite de la mission lunaire. Mais après coup, on estime aujourd'hui qu'elle était plus proche de 1 sur 2.
Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps pour retourner sur la Lune ?
Alors, dès les années 1970, l'intérêt de ces missions lunaires est vite retombé, notamment auprès du public américain. Hein, si je caricaturais, je pourrais dire que les missions Apollo ont été victimes d'une baisse de l'audimat. Après le succès historique d'Apollo 11, qui a d'ailleurs provoqué l'abandon du programme lunaire soviétique, il devait y avoir encore 9 autres visites de la Lune, jusqu'à Apollo 20. Mais en réalité, il n'y en a eu que 6, dont l'échec d'Apollo 13, victime d'un très grave accident sur le trajet vers la Lune, et dont l'équipage a pu être miraculeusement sauvé. Apollo 17 a été la dernière, en décembre 1972. Dès 1970, les contraintes budgétaires, notamment en raison de la guerre du Vietnam de plus en plus coûteuse pour les USA, conduisent la NASA à supprimer Apollo 20, puis 18 et 19. Et après 1972, les missions spatiales se réorientent vers des séjours en orbite terrestre basse, comme l'avait prévu la NASA dès 1963 pour l'après-Apollo. Et ce seront la petite station habitée Skylab en 73-74, un module dérivé d'un troisième étage de Saturne V, puis la première coopération avec l'URSS avec la mission conjointe Apollo-Soyuz en 75, qui ouvriront la voie avec la station spatiale soviétique Mir au projet de station spatiale internationale, l'ISS, rendu possible par la grosse capacité de transport des navettes américaines en service entre 1980 et 2011. Il faut rappeler que dans l'intervalle, on a assisté à l'effondrement de l'URSS, mettant fin à la guerre froide, ce qui a permis au président américain Clinton puis Bush, père, d'envisager une coopération avec la Russie, d'abord pour Mir, puis s'associer pour l'ISS, dernier domaine où cette coopération se poursuit dans le domaine spatial depuis le début de la guerre en Ukraine. Le sujet du retour vers la Lune ne s'est reposé qu'en 1989 pour les 20 ans d'Apollo 11 dans le cadre de la SEI, Space Exploration Initiative, donc Initiative pour l'exploration spatiale, de George Bush, hein, toujours père, qui définit un programme spatial ambitieux sur 30 ans dont l'établissement d'une base permanente sur la Lune. Car pour le futur, on ne prévoit pas de simples missions ponctuelles d'exploration de notre satellite en y passant que quelques heures ou jours comme Apollo, mais une exploitation de ressources lunaires nécessitant une présence permanente d'astronautes pour des semaines ou des mois, donc la construction d'une base probablement dans un cratère du pôle sud lunaire, dont le fond plongé constamment dans l'ombre permet de se mettre à l'abri des dangereux rayonnements solaires, ou peut-être dans un vaste tunnel que le volcanisme lunaire a creusé sous la surface. On imagine pouvoir exploiter des minéraux extraits à la surface lunaire, ce qui ne sera probablement pas rentable par rapport aux mines terrestres avant longtemps, mais la situation est bien différente pour un élément très précieux, l'hélium-3. Un isotope de l'hélium produit par le Soleil, presque inexistant sur Terre car repoussé par notre champ magnétique, alors qu'il s'imprègne dans le régolithe, la poussière lunaire. L'hélium-3 peut ouvrir la voie à la production d'électricité par la fusion nucléaire à une température moins élevée que nos tentatives actuelles basées sur l'hydrogène. En étant un peu caricatural, c'est peut-être le pétrole du XXIe siècle. Et on comprend alors mieux l'intérêt des grandes puissances à vouloir retourner sur la Lune.
Mais ce programme américain remonte donc à 1989, il y a plus de 25 ans, et on n'est toujours pas retourné sur la Lune. On a pris beaucoup de retard, Michel.
Oui, alors effectivement, ce projet a subi de nombreux aléas en fonction des situations politiques et économiques des USA. Après l'échec du programme SEI, par manque d'un soutien du Congrès et du public, c'est le fils, George W. Bush, qui repropose en 2004 sa vision, Vision for Space Exploration, donc vision pour l'exploration de l'espace, qui veut remettre les missions humaines au cœur de l'exploration spatiale après l'échec global des navettes et envisage un retour sur la Lune avant 2020 pour préparer une future présence permanente et des missions ultérieures vers Mars. Avec l'adhésion du Congrès et de l'opinion publique, la NASA met sur pied le programme Constellation, prévoyant un nouveau lanceur lourd Ares et de nouvelles capsules Altaïr et Orion. Devant les probables insuffisances budgétaires pour mener à bien ce projet, le président Obama le fait expertiser en 2009 par une commission qui confirme le financement insuffisant mais maintient l'intérêt de l'État lunaire avant des missions martiennes. Obama décide d'annuler le programme Constellation en février 2010. La NASA poursuit néanmoins le développement du lanceur lourd Ares, rebaptisé SLS pour Space Launch System, et de la capsule Orion, mais à moindre coût. Pour le SLS, la NASA, si je peux dire, fait du neuf avec du vieux, car elle recycle des éléments développés pour la navette spatiale, le réservoir d'appoint du lancement pour le premier étage et les fusées d'appoint à poudre dans une version plus puissante. Et pour Orion, elle partage le coût avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui développe le module de service. C'est la partie cylindrique derrière la capsule qui assure sa propulsion, son alimentation électrique avec des panneaux solaires et la production des consommables indispensables à la survie des astronautes, l'eau, l'oxygène, l'azote. En échange, l'ESA disposera de places pour les séjours des spationautes européens à bord de l'ISS ou pour de futures missions lunaires Artemis. C'est l'abandon d'un autre programme de la NASA, une mission humaine vers un astéroïde géocroiseur, qui va remettre en selle les missions lunaires en 2017, qui ont les faveurs du président Trump lors de son premier mandat, à l'approche du 50e anniversaire d'Apollo 11, et qui décide d'avancer l'objectif à 2024 alors que la NASA visait 2028. C'est donc en 2019 que le nouveau programme est baptisé Artemis, en référence à la déesse grecque de la chasse, qui était associée à la Lune, et surtout sœur jumelle d'Apollo, Apollon pour nous. Mais la structure des missions a évolué en intégrant la notion de Lunar Gateway, une future station spatiale en orbite autour de la Lune, imaginée pour succéder à l'ISS, un concept développé par la Russie dès les années 2010. Alors qu'une mission Apollo emportait tout le matériel nécessaire à une mission lunaire, capsule et module lunaire, une mission Artemis ne fait que transporter les astronautes jusqu'à l'orbite lunaire pour rejoindre la Lunar Gateway, le permettant d'accéder à un autre vaisseau qui doit assurer la navette aller-retour jusqu'à la surface lunaire. Pour cet élément, baptisé HLS, hein, Human Landing System, système d'atterrissage humain, enfin d'alunissage on devrait plutôt dire, l'agence spatiale lance un appel à projet aux acteurs privés. Et trois sociétés font des propositions. Blue Origin, avec son module Blue Moon, similaire au LEM, SpaceX avec son gros vaisseau Starship dans une version lunaire, et Dynetics. C'est le Starship de SpaceX qui est choisi en avril 2021 pour les premières missions sur la Lune, Artemis 3 et 4. Puis en 2023, peut-être en raison des retards du Starship, elle choisit le Blue Moon pour Artemis 5 et sa version cargo pour des futures missions de dépôt de fret sur la Lune pour la construction d'une base permanente.
Mais on est en 2026, donc les chances de 2024 voulues par Trump a été ratée. Où en est-on aujourd'hui concernant ce programme Artemis, justement?
Alors, comme je l'ai dit, Artemis 1 a réussi le premier lancement du SLS, c'était le 16 novembre 2022, et quatre jours plus tard, la mise en orbite de la capsule Orion sans équipage autour de la Lune, une orbite très large qui prendra 6 jours, puis son retour vers la Terre pour son amérissage le 25e jour. La mission a été globalement un succès, malgré des pertes temporaires de communication avec le vaisseau. Sur la capsule récupérée, on a constaté une usure anormale du bouclier thermique lors de sa rentrée atmosphérique. L'analyse complète a conclu seulement en décembre 2024, et ce délai a retardé le planning d'Artemis 2. Cette mission habitée aurait pu être lancée ce dimanche, si la dernière répétition complète, qui a eu lieu cette semaine, s'était déroulée correctement, avec le remplissage des réservoirs, l'embarquement de l'équipage et le déroulement de la procédure complète jusqu'à 30 secondes du tir où les automatismes prennent la main pour la séquence finale. Malheureusement, il y a eu quelques anomalies, dont des fuites d'hydrogène liquide sur la connexion permettant le remplissage des réservoirs, une première à 55% réparée en 1h30, puis une seconde à 5 minutes de la fin du décompte, obligeant à stopper l'opération. C'est déjà ce même problème qui avait retardé le lancement d'Artemis 1 en 2022. Pour permettre l'analyse et la correction du défaut avant de procéder à une seconde répétition, le lancement ne pourra plus avoir lieu en février, mais se trouve reporté en mars, où une nouvelle fenêtre de tir s'ouvre à partir du 6 mars. L'équipage comprend 4 astronautes, le commandant Red Wiseman, le pilote Victor Glover et Christina Kaur, tous trois de la NASA et ayant effectué de longs séjours à bord de l'ISS, et Jeremy Hansen de l'agence spatiale canadienne CSA. Au passage, on peut voir que la NASA se préoccupe de la diversité dans ses équipages, avec une femme, un noir et un non-américain. Dans les grandes lignes, le déroulement prévu de la mission serait le suivant. La capsule atteint son orbite terrestre environ 8 minutes et demie après son lancement de la base spatiale Kennedy en Floride, depuis le pas de tir 39B des missions Apollo. Et c'est après une orbite complète d'environ 25 heures que, si tout va bien, elle est transférée sur son trajet vers la Lune, qui prendra 5 jours, avant l'injection sur une large orbite elliptique qui devrait battre le record de distance d'un équipage à la Terre, réalisé involontairement par Apollo 13 en 1970, en dépassant 400 000 km. Après environ 2 jours, elle entamera son retour vers la Terre pour sa rentrée atmosphérique et l'amerrissage dans l'océan Pacifique 10 jours après le tir.
Et pour la suite, Artemis 3 ?
Alors les prévisions sont beaucoup plus difficiles. Cette mission qui doit ramener des astronautes sur la Lune a longtemps été prévue pour fin 2027, mais maintenant reculée à 2028. Et j'ajouterai au mieux, car de nombreuses incertitudes pèsent encore sur sa réalisation. Il y a tout d'abord la mise au point du Starship qui a connu une longue série de ratés lors des tests, au départ assez prévisible dans la démarche habituelle de SpaceX procédant par essai-correction. Après la première version entre 2023 et 2024 qui semblait progresser normalement, le passage à la version 2 en 2025 s'est traduit par une succession d'échecs, sauf le tout dernier vol du 14 octobre dernier. Mais il ne s'agissait que de vols suborbitaux, c'est-à-dire ne réalisant même pas une orbite autour de la Terre, allant pour les plus réussis de la base de Boca Chica au Texas jusqu'à un amerrissage dans l'océan Indien. On attendait le premier vol orbital avec un essai de la version 3 en décembre, mais un gros incident lors d'un test de remplissage au sol en novembre a reporté cette échéance, probablement au printemps prochain. C'est dire si la disponibilité du Starship en version HLS est incertaine, d'autant que pour envisager de lui confier un équipage vers la surface lunaire, il faudrait déjà qu'il réalise avec succès un alunissage et un redécollage sans équipage. Mais pour atteindre l'orbite lunaire, il faudra d'abord qu'il puisse être ravitaillé en carburant par une sorte de Starship tanker en orbite terrestre, manœuvre qui n'a jamais été tentée depuis le début de l'ère spatiale. D'ailleurs, cela conduit Blue Origin à pousser son propre atterrisseur pour remplacer le Starship dès les missions Artemis 3 et 4, après avoir contesté le choix de SpaceX par la NASA dès 2021. Mais ce n'est pas tout, car la Lunar Gateway a aussi du plomb dans l'aile, après l'abandon de ce projet international par la Russie en 2020. La NASA a décidé que les premières missions lunaires pourraient se faire sans cet élément, avec un rendez-vous en orbite lunaire de la capsule Orion directement avec le HLS. La Lunar Gateway, probablement dans une version simplifiée et pas la petite ISS envisagée au départ, ne deviendrait indispensable que lors des missions ultérieures pour la construction d'une base permanente nécessitant de fréquents allers-retours de la navette lunaire, et sans doute après 2028 donc. Et pour être complet, la mise au point par la société Axiom de la combinaison lunaire pour les astronautes prend aussi du retard. Pour conclure, le retour des Américains sur la Lune reste encore difficile à prévoir. Et comme je l'ai souvent répété ici, il est bien possible que les prochains pas à la surface lunaire soient ceux d'un taïkonaute chinois. L'agence spatiale chinoise ayant plusieurs fois réaffirmé vouloir réussir cet exploit avant 2030. Et la plupart des spécialistes pensent à 2029, car ce sera le 80e anniversaire de la République populaire de Chine. Et par le passé, la CNSA, donc l'agence spatiale chinoise, nous a souvent prouvé qu'elle respectait scrupuleusement ses plannings.
On est toujours à l'écoute des programmes d'Odo Radio. C'est notre journal, je rappelle, en ce mercredi 4 février, toujours avec Michel Favret pour sa 130e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de votre chronique et nous parler du ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique Ciel du mois de la section astronomie de notre site web. Je rappelle www.constellationsetgalaxies.org pour voir les cartes du ciel, difficile de les montrer à la radio, et avoir plus de détails. Je l'ai mise à jour pour février, samedi dernier. Depuis le solstice d'hiver du 21 décembre, jour le plus court de l'année, les journées se sont largement rallongées, Mais l'observation du ciel nocturne peut se pratiquer encore assez tôt le soir, car en ce moment, le soleil se couche un peu après 18 heures. La nuit arrive vers 19h15 et le ciel bien noir un peu avant 20 heures. Ce sera environ 3/4 d'heure plus tard, fin février, avec le coucher vers 18h45 et la nuit un peu avant 20 heures. Comme nous sommes encore en début de l'hiver, en début de nuit, le ciel est encore partagé entre les constellations de l'automne dans sa moitié ouest et celle de l'hiver vers l'est. À mi-chemin de son coucher vers l'ouest, la constellation vedette du ciel d'automne, Pégase, est bien reconnaissable à son grand carré, assez régulier, presque vide d'étoiles, et dans le prolongement de sa diagonale, Andromède, dans laquelle on peut observer la grande galaxie, même avec une simple paire de jumelles. C'est l'objet le plus lointain visible à l'œil nu, 2,5 millions d'années-lumière de nous. Je rappelle que selon le mythe, Pégase est né du mélange du sang de la Méduse et de l'eau de mer, et comme il est représenté dans le ciel à sa naissance, on a sous lui des constellations qui évoquent l'eau, et notamment les poissons, qui dessinent comme un grand V entre Pégase et la baleine. En position pratiquement symétrique à l'est du méridien, on trouve la constellation vedette du ciel d'hiver, le chasseur Orion, bien reconnaissable à sa figure évoquant une silhouette humaine. On le repère facilement aux trois étoiles bien alignées qui forment sa ceinture, surnommées les rois mages, car elles apparaissent dans le ciel en début de nuit vers Noël. On peut aussi trouver qu'Orion dessine comme un papillon, dont le corps serait cette ligne de trois étoiles et les ailes formées par deux étoiles plus écartées au nord et aussi au sud, en réalité ses épaules et ses pieds. Une fois repéré Orion, on peut remarquer que les étoiles les plus brillantes du ciel d'hiver forment autour de lui comme un grand G majuscule, en commençant devant lui, c'est-à-dire à l'ouest, Aldébaran du taureau, Capella du cocher, Castor et Pollux des gémeaux, Procyon du petit chien et Sirius du grand chien, l'étoile la plus brillante de tout le ciel, hémisphère sud compris, et enfin Rigel, le pied droit d'Orion, puis on referme la barre du G majuscule avec les épaules d'Orion, Bellatrix et Bételgeuse, celle-ci est reconnaissable à sa couleur orangée comme Aldébaran, car ce sont toutes deux des géantes rouges, c'est-à-dire de vieilles étoiles en fin de vie. On a ainsi situé les principales constellations de l'hiver tout autour d'Orion. Et si on veut plus d'explications, on peut réécouter la chronique astro de décembre 2024, où j'avais détaillé la description du ciel d'hiver. Attention, cette année, la figure du grand G est un peu brouillée par la présence de la très brillante planète Jupiter, située dans les Gémeaux. En fin de mois, le ciel se sera notablement décalé vers l'ouest, avec en début de nuit Pégase sur le point de se coucher, Orion plein sud assez haut et Capella au zénith, c'est-à-dire au-dessus de notre tête, et les constellations du printemps commençant à se lever à l'est, notamment le Lion, facile à situer avec les étoiles qui dessinent sa crinière et forment comme une faucille dans le ciel, ou pour ceux qui ne connaissent pas cet instrument, un point d'interrogation à l'envers. Côté planète, Jupiter est sans conteste la vedette du ciel, car elle est déjà haute dès le début de nuit. Et pour l'observer encore dans de meilleures conditions, on peut la laisser monter plus, car elle culmine au sud vers 23h, 21h30 en fin de mois. Je rappelle à nos auditeurs que dans une simple paire de jumelles, on peut voir ses quatre principaux satellites, dont les positions changent en quelques dizaines de minutes. Pour Saturne, c'est l'inverse. Il vaut mieux l'observer en début de nuit, car elle a déjà largement franchi le méridien sud et commencé sa descente vers l'ouest pour se coucher, vers 22h en ce moment, et ce sera presque dès le début de nuit à la fin du mois. Mercure, Vénus et Mars sont toutes les trois proches du Soleil ce mois-ci et ne peuvent pas être bien observées en février. Mercure n'apparaîtra que quelques jours autour du 20, très basse dans les lueurs du crépuscule. De même pour la très brillante Vénus qui nous revient dans le ciel du soir en milieu de mois. Comme chaque mois, la Lune produira une série de conjonctions en s'approchant des planètes, en commençant par le jeudi 19, où un très fin croissant accompagnera Mercure pour son coucher, avec Saturne pas très loin. Pour le jeudi 26 et le vendredi 27, où la Lune gibbeuse s'approchera de la brillante Jupiter, les deux astres inversant leur position relative entre les deux soirs, ce qui mettra en évidence la vitesse de déplacement de la Lune devant la voûte étoilée. Et le 27 aussi, la très brillante Vénus se couchera accompagnée du plus discret Mercure. Comme tous les ans, le début février est favorable à l'observation de la lumière zodiacale, surtout quand la Lune est absente du ciel. Ce phénomène se présente comme une zone faiblement lumineuse, vaguement triangulaire, montant de l'horizon sud-ouest environ 1h30-2h après le coucher du soleil. Elle est due à la réflexion de la lumière solaire par des poussières présentes dans le plan de l'écliptique, c'est-à-dire là où orbitent les planètes, qui est particulièrement dressée sur l'horizon en ce moment, d'où les conditions favorables pour l'apercevoir. Nos auditeurs entendront peut-être dans les médias que la première éclipse de soleil de 2026 aura lieu le 17 février, mais pour la voir, il faudrait se rendre en Antarctique. De plus, la Lune étant trop petite, car loin de la Terre sur son orbite elliptique, elle ne couvrira pas complètement le lame solaire, laissant visible un anneau lumineux, ce qu'on appelle une éclipse annulaire. Je profite de l'occasion pour dire que la pitoyable publicité pour une marque de croisière mettant en scène l'éclipse du 12 août au large des Baléares est complètement fausse, car l'image truquée mettant l'éclipse dans le ciel représente justement une éclipse annulaire, alors qu'elle sera totale le 12 août, donc une vision totalement différente, avec la révélation de la couronne solaire. De plus, ce que je considère moi comme criminel, on voit les passagers l'observer avec de simples lunettes de soleil, alors que c'est très dangereux, pouvant causer des cécités irréversibles. Comme on le répète ici à chaque fois, et probablement aussi dans de futurs messages de prévention du gouvernement plusieurs semaines avant l'événement, les éclipses ne doivent être observées qu'avec des lunettes spéciales qui filtrent très fortement la lumière, n'en laissant passer qu'environ 1/100 millième jusqu'à nos yeux. Comme à chaque fois, une éclipse solaire est accompagnée d'une éclipse de lune 15 jours avant ou après, et ce sera le 3 mars, mais là non plus, on ne pourra pas la voir car la lune sera couchée pour nous quand elle se produira. Et pour conclure cet agenda, notre prochaine chronique devrait avoir lieu le mercredi 4 mars, sauf imprévu.
Voilà, parfait. Merci beaucoup, Michel.